Rebonjour mes frères et sœurs, pour vous qui êtes là ce matin. Quel bonheur de partager la parole. Un jour, Dieu a éprouvé un de ses serviteurs qui s'appelait Abraham. Il a fait une grosse épreuve. Vous savez que dans la vie, il y a des petites épreuves et il y a des grosses épreuves. Dieu a éprouvé son serviteur, il a obéi. Et à la fin, il a fait une expérience. Et dans l'élan de cette expérience, Abraham a donné un nom nouveau à Dieu, un de ses fameux 150 attributs. Jéhovah Jireh, ça veut dire Dieu pourvoira. Et les expériences que nous sommes amenés à faire nous permettent de découvrir les attributs du Seigneur. Alors on va en voir deux qui sont complémentaires. Ce matin, je vous ai dit que dans l'évangile de Jean, il y a 8 miracles. Ce sont des signes en vérité. Dans l'évangile de Matthieu, de Luc, de Marc, il y a des centaines, on voit qu'il y a des centaines de miracles, de guérisons, etc. Dans l'évangile de Jean, il n'y en a que 8. Comme je vous l'ai dit, le premier va avec le 8e, c'est le même enseignement, le deuxième avec le 7e, etc., etc. Nous allons donc nous intéresser cet après-midi au premier miracle, dans Jean chapitre 2. Vous avez dû lire cette histoire. Vous connaissez le premier miracle du Seigneur ? C'est merveilleux. Vous devriez faire un premier miracle, vous. Vraiment, là on dirait, maintenant, voilà, tu vas faire un premier miracle. Tu vas faire un miracle dans ta vie. Dans quelles conditions souhaiteriez-vous le faire ? Voilà, le Seigneur vous dit, écoute, tu vas faire un miracle, un grand miracle. Voilà, comment veux-tu que ça se passe ? Comment voudriez-vous que ce miracle soit vu ? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait toutes les chaînes de télévision ? C'est pas une question piège, c'est une question qui vous montre tout d'abord la bonté du Seigneur. Jésus a fait son premier miracle dans une simplicité totale à un mariage. Jean chapitre 2, vous savez, c'est le Seigneur aurait pu permettre que ça se passe dans des circonstances mondaines. Jean chapitre 2, au verset 1er, c'est un signe, c'est pas qu'un miracle. Les miracles sont des signes. Vous savez, comme les signaux sur les routes. Sur les routes, vous avez des panneaux. C'est des signes. Ça vous indique quelque chose. Dans l'évangile de Jean, les 8 miracles sont 8 signes. Le premier, c'est donc les noces. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ? Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère. Jean chapitre 21, ça fait plusieurs jours que Jésus est ressuscité, les disciples se retrouvent un peu désœuvrés. Ça peut arriver dans la vie d'être désœuvré ? Ben oui. Jean chapitre 21, regardez, c'est le dernier miracle que Jésus a fait. Jean chapitre 21, verset 1er, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous posais la question, comment vous manifesteriez si vous deviez faire un miracle? Regardez bien la tendresse du Seigneur. Simon, Pierre, bon lui c'est un pêcheur. Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, et après vous voyez, c'est pas des pêcheurs. Ils sont là, ils sont désœuvrés. De Cana en Galilée, les fils de Zébédée, 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'ils travaillent. Il fallait bien qu'ils mangent. Vous voyez? Il y avait vraiment un moment difficile. Dans la vie, c'est comme ça, il y a des moments difficiles. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture car il était nu, alors ça ne veut pas dire entièrement nu, vous comprenez bien, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons car il n'était éloigné de terre que d'environ 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en étant, le filet ne se rompit point. Et vous dites, « Amen. » N'oubliez pas que ces choses ont été écrites dans un seul but, que nous ayons de l'espérance, que nous soyons instruits, que nous soyons fortifiés et que nous connaissions davantage ce Dieu qui... pourvoit. Jéhovah Jireh. Nous sommes tous éprouvés. Nous traversons des moments compliqués, des moments de désœuvrement, ou alors des moments où nous pouvons inviter le Seigneur, comme dans le premier texte. On a invité le Seigneur à ce mariage. Est-ce qu'ils ont bien fait? Ben oui. Ils ont invité le Seigneur, c'était certainement la famille. Et à un moment donné, il y a eu un problème, un manque, comme dans nos vies. Il peut nous manquer quelque chose. Même si on peut chanter « L'Éternel est mon berger », je ne manquerai de rien. Il n'empêche que parfois il peut manquer quelque chose. Oui ou non? Il peut manquer 50 euros pour arriver à la fin du mois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Il peut manquer un peu de paix parce qu'on l'a perdu, etc., etc., etc. Il peut nous manquer plein de choses. Et le Seigneur le sait. Et notre réunion cet après-midi, c'est exactement la même chose. C'est comme si nous nous trouvions aux noces de Cana et que nous avons eu la bonne intelligence d'inviter le Seigneur dans notre maison. C'est pareil. Le Seigneur le voit de la même manière. Nous sommes venus, nous avons invité le Seigneur dans notre réunion. Nous ne sommes peut-être pas tous à la même distance. Vous avez vu d'ailleurs dans cette histoire, les serviteurs, les simples serviteurs, savait que Jésus avait fait le miracle, alors que le coordinateur du repas, il n'était pas au courant. S'il y en avait un qui aurait dû être au courant, est-ce que ce n'était pas le coordinateur? Mais voyez, mes frères et sœurs, les gens parfois qui auraient dû être le plus concernés, ne l'étaient pas. Pourquoi? Eh bien parce que il faut être à côté du Seigneur. Et c'est une façon d'améliorer notre spiritualité, de dire, bon, Seigneur, on t'a invité dans notre réunion. On t'a invité dans notre réunion. Je crois que tu es Jéhovah Jireh, que tu es l'Éternel qui pourvoit. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Parce que le Seigneur peut vous demander la même chose. Remplissez d'eau ces vases. Qu'est-ce que ça veut dire, remplissez d'eau ces vases? Le Seigneur nous compare-t-il à des vases? Oui. Le Seigneur nous compare à des vases qui peuvent parfois être brisés, ébréchés, fêlés. Sale, vide. Est-ce que le Seigneur le sait?
Oui,
il le sait. Sa maman, qui est adorée dans le monde entier, dans des religions, va dire une parole merveilleuse, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Elle se doutait pas qu'il allait se passer cette affaire. Et Jésus va demander quelque chose que tout le monde peut faire. Remplissez d'eau ces vases. Et ils vont le faire. Et vous savez, l'image, elle est toute simple. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Seigneur, tu vois ma vie. Je suis un vase. Je peux être un vase brisé, un vase abîmé, un vase ébréché, un vase d'honneur, etc., etc. Mais ce vase, puisque je suis un vase et que tu me compares à un vase, si tu me demandes de le remplir, ben je vais le remplir. De ta parole. De ta parole. Chaque fois que vous lisez la Bible, vous remplissez le vase de l'eau de sa parole. Et il faut le faire comme Dieu le demande. Comme quand Dieu avait demandé au prophète Élisée de faire dire à Géasi, à ce fameux général de l'armée de Syrie, « Va et trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. » Pourquoi 7? Sérieusement. Pourquoi pas 6 ou 8? Pourquoi Dieu a-t-il demandé 7 fois? Parce que c'est 7, d'accord, et c'est vrai, c'est 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que je dois me plonger dans la parole de Dieu le nombre de fois qu'il me faudra pour qu'arrive cette guérison dont j'ai besoin. Remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Et ce miracle s'est manifesté tout simplement, le Seigneur a pourvu. Vous savez que le vin, c'est le symbole de la joie. Le premier miracle a le même enseignement que le dernier. Le dernier miracle, ils sont pas bien, les apôtres. Il s'est passé des choses, ils n'ont pas tout compris, le Seigneur est ressuscité, ça va être la troisième fois qu'ils se... ils sont pas bien, il faut qu'ils travaillent, il leur faut des sous. Donc Pierre dit, écoutez, moi je sais pêcher, je vais pêcher. Les autres, bien nous aussi, on va avec toi. Même si ce ne sont pas des pêcheurs professionnels. Et vous savez ce qui se passe, ils y vont, et ça a dû leur rappeler une drôle d'histoire. Il y a des situations qui nous rappellent des expériences. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ça devait rappeler à Pierre un souvenir. Jésus a été invité dans la première. Là, c'est lui qui s'invite. Et vous savez, je crois que quand on a invité Jésus dans notre vie, après il peut venir quand il veut. Est-ce que c'est bien? Ben ouais, c'est... La première fois où il s'est montré à ses disciples, après la résurrection, c'était où? La première fois à ses apôtres, c'est dans la chambre haute. Vous avez vu comment il est rentré? Quelle impolitesse! Il est rentré, ça frappait. Sa porte fermée, il est rentré par les murs. Vous ne trouvez pas qu'il est indiscret, le Seigneur? Comment vous trouvez cette manière de faire? Quelle grâce, vraiment. Je tiens à vous dire que quand on sera ressuscité, on aura quand même les mêmes possibilités. Je ne sais pas si vous le savez. Oui ou non? Oui. C'est peut-être dur à croire, mais c'est comme ça. Il s'est invité. Tous l'avaient abandonné. Un l'avait vendu, il venait de se suicider. L'autre l'avait renié. Enfin, c'était quand même un petit peu compliqué. Et lui, il rentre, et avec une sévérité totale, il les a grondés. La paix soit avec vous. Moi, je trouve ça merveilleux. La paix soit avec vous. Il le redit, deuxième fois, au cas où ils auraient... Peut-être certains ont eu du mal à comprendre, parce que c'est vrai, la façon dont il s'était présenté était assez inaccoutumée. Et il leur redit de nouveau, la paix soit avec vous. Là, nous le voyons, il s'invite, il est là, il est à 100 mètres d'eux. Est-ce qu'il aurait pu apparaître carrément dans la barque? Ben oui. Non seulement il est là au bord du lac, à 100 mètres d'eux, et voyez cette délicatesse. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Est-ce que Jésus savait qu'ils allaient faire cette pêche miraculeuse? Oui. Donc ils auraient pu ramasser les poissons, pêcher les poissons, les compter, parce qu'il y en avait tellement que Dieu a voulu qu'on sache qu'il y en avait 153. Et Jésus aurait pu leur dire, voilà, maintenant, s'il vous plaît, faites à manger pour vous et pour moi. Est-ce que ça aurait pu se faire? Est-ce que ça aurait été bien? Ben oui. Non seulement Jésus leur permet de faire une grosse pêche qui va leur permettre certainement de renflouer un peu leur portefeuille, mais il les attend sur le rivage. Vous avez vu comment il les attend? Il les attend avec du poisson, du pain, sur des charbons allumés. Comment vous trouvez ça, franchement? C'est de la délicatesse. c'est de la tendresse. C'est le dernier miracle. Le Seigneur aurait pu une fois de plus, parce qu'en plus il y avait encore un précédent avec Pierre qui va être réglé après, qui n'était pas encore réglé. Est-ce que Jésus aurait pu régler le précédent avec Pierre le soir de la première de la résurrection? Oui. Ah Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais pas l'intéressant, voyez. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Ben oui, il aurait pu. Il est le Seigneur. Il a attendu le moment opportun, le moment favorable. Il va la Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il va poser la question, etc. Mais avant, je crois que des fois il y a des problèmes à régler. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des problèmes? Ouais. Et là, vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Que même s'il y a des choses qu'il faudra régler, et Pierre était soucieux de le régler, la preuve, quand Jean lui dit, mais tu sais pas, c'est le Seigneur. Il était là, il s'est, de suite, il pouvait pas attendre, il a fallu qu'il passe, qu'il nage sur ses 100 mètres pour le rejoindre. Mais moi, ce qui me bouleverse, c'est que le premier miracle, le Seigneur pourvoit. Le dernier miracle, le Seigneur pourvoit. Et je crois que toute notre vie, nous pouvons réaliser que nous avons un Dieu qui, soit que nous l'invitions, soit qu'il s'invite, il saura s'approcher de nous pour nous faire du bien. Quelle délicatesse. Franchement, moi, quand j'ai lu cette histoire pour la première fois, j'ai dit, mais il aurait pu leur demander de préparer à manger. Après tout, est-ce que Jésus avait le droit, le pouvoir de dire, faites-moi manger. Ben oui, il est le Seigneur. Et tout le monde, je pense, se serait même appliqué à le faire. Il l'aurait fait de bon cœur, sûrement. Non, il n'a pas fait comme ça. Il les attendait avec ce bonheur de les bénir. Est-ce que vous croyez que ce que le Seigneur Jésus a fait pour les 12 ou pour ces gens au mariage, après tout, il manquait du vin à un mariage. Bien sûr que c'est grave quand il manque quelque chose dans un couple, dans une famille, un mariage. Mais est-ce qu'il aurait pu faire il aurait pu commencer ailleurs un miracle? Pourquoi il a commencé à dénoncer? Pourquoi Jésus a commencé son ministère en faisant un miracle à dénoncer? Moi, c'est la première question que j'ai posée à mon pasteur quand je suis rentré à le ministère. Il m'a dit, on est bête des fois, oui. Il m'a dit, t'as pas compris? Il me dit, parce que la dernière chose que Jésus fera, ou la première chose quand on se retrouvera avec lui, ça sera les noces de l'agneau. Et vous savez, c'est des cycles. Et c'est vrai que lorsque nous le verrons, lorsque nous verrons le Seigneur, et que nous serons enlevés avec lui dans la gloire, la première des choses que nous allons vivre, certainement, c'est les noces de l'agneau. Ça vous intéresse, les noces de l'agneau? Les noces de l'agneau. Je ne sais pas combien on sera, mais je pense qu'il va y avoir du monde. Je ne sais pas qui sera au lave-vaisselle, mais je peux vous dire qu'il y aura vraiment, vraiment, vraiment du travail. Quel jour, quel grand jour, ce grand jour où nous serons accueillis aux noces de l'agneau, certainement dans la nouvelle Jérusalem, etc. C'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, ou vous qui découvrez l'évangile, c'est une loi dans le royaume. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que Dieu fera, mais si vous l'invitez dans votre vie, si vous écoutez ce qu'il vous dira, vous avez vu, faites ce qu'il vous dira. Si vous n'êtes pas encore sauvé, repentez-vous, c'est ce qu'il vous dit. La première chose que les apôtres ont dite chaque fois qu'ils ont prêché l'évangile, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, Jésus, Paul, tous ces hommes ont dit aux hommes, repentez-vous et convertissez-vous. Faites ce qu'il vous dira. Si vous voulez participer aux noces de l'agneau, si vous voulez vérifier que le Seigneur Jésus est ce Seigneur qui pourvoit, faites ce qu'il vous dira. Repentez-vous, allez au calvaire. C'est le seul moyen de régler le problème de votre éternité. Si vous n'avez pas d'assurance, c'est important d'avoir de l'assurance. Hier, je lisais les épîtres de Jean, quand Jean, il dit, mais nous avons, afin que nous ayons de l'assurance devant Dieu. Plusieurs fois, afin que nous ayons de l'assurance lors de son avènement. C'est important d'avoir de l'assurance. Que vous sortiez tout à l'heure dans la rue en disant, moi j'ai cette assurance que lorsque je partirai, oui, je serai semblable à lui. Vous vous rendez compte? L'assurance. Dieu veut que nous ayons une vie d'assurance. Quand on chante des petits chœurs, comme tout à l'heure, « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. » Mais lendemain, ils sont assurés. Ce cantique, il a été écrit par quelqu'un, certainement, qui devait avoir beaucoup d'assurance dans son cœur. Croyez-moi. J'ai cette assurance, etc. Invitons-le. Si vous n'êtes pas converti, repentez-vous. C'est la première chose qu'il vous dira. Et c'est vrai que Dieu peut bénir des gens, même s'ils ne veulent pas se repentir. Est-ce que Jésus, dans la Bible, a béni plein de gens qui ne se sont jamais repentis ? Oui. Mais enfin, ça doit être terrible d'avoir fait des expériences plus belles les unes que les autres et de ne pas avoir été au ciel. Comme c'est dit lépreux, il y en a combien qui se sont repentis sur les 10 ? Ben, est-ce que ça a changé au fait ? Eh non. Sur 10 personnes qui sont touchées par la grâce divine, je crois qu'il y en a toujours qu'un qui vraiment finit par se repentir. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Partout sur la terre, je ne sais pas comment c'est au Niger ou en Afrique, je ne sais pas comment c'est dans les pays riches ou dans les pays pauvres, j'ai remarqué qu'à peu près sur 10 personnes bénies, il n'y en a qu'une qui revient s'occuper de son âme. En tous les cas, Jésus a pourvu à Cana, Jésus a pourvu sur le bord du lac, il a pourvu, enfant, n'avez-vous rien à manger ? Je ne sais pas si vous avez à manger. Enfin, matériellement, t'as mieux si on a tous à manger. C'est bien d'avoir à manger. Mais spirituellement, est-ce que vous êtes prêt à écouter le Seigneur ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Parce que des fois, on ne le reconnaît pas trop, le Seigneur. Là, vous voyez, ils ne l'ont pas reconnu. Il n'y a que Jean qui a compris que c'était lui, peut-être à la voix, je ne sais pas. Ce n'est pas écrit. En tous les cas, c'est quand même écrit. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Parce que c'est vrai que tout le monde peut poser des questions de ceci, l'enfant, n'avez-vous rien à manger ? Enfin, tout le monde pouvait poser la question. Hein ? Ils ont reconnu le Seigneur. Est-ce que ça valait la peine de sauter à la mer et... Comment ils ont dû le manger, ce poisson-là ? Vous croyez qu'il était bien cuit ? C'est Jésus qui s'en est occupé. C'est beau, la délicatesse. Hein ? Oui, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Du début à la fin. Invitez-le. Faites ce qu'il vous dira. S'il vous demande de remplir votre vie de l'eau de sa parole, faites-le. S'il vous demande de jeter le filet à droite de la barque, faites-le. Bien sûr que vous avez compris ce que je voulais dire. S'il vous demande quelque chose, faites-le. Il est le Seigneur qui pourvoit. Il a cette possibilité. C'est dans cet évangile aussi où on voit le Seigneur qui multiplie les pains. Pourquoi ? Eh bien parce que il est le Dieu de la multiplication. Que son nom soit béni. Il a le pouvoir de vous bénir. Il est le Dieu qui pourvoit. Il peut guérir encore cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut être guéri cet après-midi ? Il peut guérir une âme. Est-ce que l'âme de quelqu'un peut être malade ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une âme, votre âme malade ? Est-ce que ça arrive ? C'est qui a dit « guéris mon âme » ? Regardez, psaume 41. Qui c'est qui a fait cette prière ? Psaume 41, il passe un moment difficile. Verset 5. Je dis, c'est David qui a dit ça. Je dis, éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. Ailleurs, il va dire que son âme est abattue. Ailleurs, il va dire que son âme a des soucis. Ailleurs, il parlera des angoisses de son âme, que son âme est abandonnée, que son âme est abattue. Rassasié de mots. Enfin, quand vous lisez, ça va loin. Regardez, on va lire le quand même mieux. Regardez, psaume 116. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 116. Moi, je suis étonné de voir tout ce que David a dit par rapport à son âme. Oui, verset 8. Tu as délivré mon âme de la mort. Vous rendez compte ? Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Mais, tu as délivré mon âme de la mort. Comme quoi notre âme, parfois, elle peut être... Non ? Il est le Dieu qui pourvoit. Je ne sais pas dans quel état est votre âme, mais vous pouvez faire un acte de foi. Les serviteurs, je ne sais pas comment ils étaient, là, ces serviteurs, remplissaient d'eau ces vases. Vous l'auriez fait, vous ? Est-ce que vous l'auriez fait ? Est-ce que vous l'auriez fait ? Ben oui, si vous êtes des serviteurs, ben oui, on m'a dit de remplir d'eau les vases. Je remplis d'eau les vases. Ils l'ont fait machinalement. Mais en tous les cas, ils ont vu le miracle. Ils l'ont vu.
l'ordonnateur, il pouvait avoir des doutes. Vous voyez ce que je voulais dire? Après tout, on les a peut-être ramenés, les vases. Mais eux, ils l'ont vu. Et je vous pose la question pour terminer. Est-ce que vous voulez voir, dans votre vie, à cause de la proximité que vous aurez avec lui, de voir combien Dieu pourvoit vraiment? Il a pourvu. Je ne sais pas moi, comment ces springs se sont retrouvés. Comment ils avaient amené Jésus? C'est un miracle. Vous voulez pas voir un miracle dans votre vie? Un miracle par rapport à votre âme. David, relisez les psaumes et notez toutes les fois où il parle de son âme qui est en difficulté. C'est quand même impressionnant. Mais il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu et Dieu a pourvu. Et cet après-midi, on est là. On a invité le Seigneur. Nous le laissons venir dans notre cœur comme il voudra. Hein? Même si ce soir il doit venir dans votre chambre en passant par les murs. Mais est-ce que Dieu peut venir vous voir d'une manière ou d'une autre? Sans se manifester matériellement, mais est-ce qu'il peut pourvoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui est capable de dire, Seigneur, oui, tu t'appelles pas que le Sauveur, que le Rédempteur, quoique c'est déjà quand même pas trop mal. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, dans ma vie, tu t'appelles aussi Jéhovah Jireh. Au calvaire, tu as tout accompli. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, mais si Dieu vous a donné son Fils, à combien plus forte raison ne vous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alors, n'hésitez pas à lui demander sa grâce, sa paix, sa bonté, etc. C'est vrai que les gens fêtent Noël d'une manière traditionnelle, d'une manière superstitieuse, mais nous, on n'est pas dans cette affaire-là. Nous, on le fait d'une manière intelligente, sérieuse. Seigneur, j'ai besoin de me retrouver au bord du rivage. J'ai besoin d'être aux côtés de ce petit feu de braise. On a besoin des fois de chaleur un peu. Hein? C'est pas vrai? De tendresse. J'ai besoin de voir ce vin tout à nouveau couler de ma vie. J'ai besoin de joie. Est-ce que Dieu peut vous donner la joie? Il est le Dieu de la joie. Je vous ai dit ces choses, a dit le Seigneur, afin que votre joie soit parfaite. La joie, elle est empaquetée dans la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de joie. Alors on va lui demander sa grâce. Vous êtes d'accord? Vraiment, on va lui demander. Nous le faisons consciencieusement. N'oubliez pas que Jésus ne fait pas de favoritisme. C'est écrit plusieurs fois. Il n'y a pas de favoritisme. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Tous. Vous venez pour la première fois, ou vous venez depuis des années, ça n'a aucune importance. Qui croit que Jésus, lorsqu'il est invité, peut à son tour s'inviter et vous réchauffer? Vous donner le vin, le pain, les poissons et la chaleur dont on a besoin.